Bienvenue dans l'émission Libre Débat sur les ondes de Radio Galère 88.4. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter une série qui s'appelle Le combat ne doit pas cesser. Éloi Machoro, un super-héros pour la Kanaky. Le 12 janvier 1985, à une centaine de kilomètres de Nouméa, capitale de la Nouvelle-Calédonie, Éloi Machoro tombait sous les balles des forces de l'ordre françaises. 35 ans après, ce documentaire sonore en 6 épisodes revient pour la première fois à travers entretiens, sons d'archives, textes d'époque sur la trajectoire de cette figure essentielle de la lutte d'indépendance kanak, encore largement méconnue hors de ses terres natales. Faire entendre son histoire, c'est aussi raconter une époque, celle de l'émergence de la formidable mobilisation collective pour la Kanaky. Et le parcours du vieux Éloi épouse la naissance de la revendication indépendantiste kanak jusqu'à sa révélation au monde au milieu des années 80. C'est un récit qui résonne aujourd'hui, alors que se rejoue inlassablement le devenir de cet archipel français du bout du monde. Et à travers lui, tout particulièrement celui de son peuple premier. Donc vous allez écouter le premier épisode de cette série documentaire qui a été réalisée par Benoît Gaudin avec une musique originale et un mixage de Simon Offray. C'est une réalisation produite par l'association Lampe Tempête. Aujourd'hui, vous allez écouter le quatrième épisode, Thio.
Et là, ici, nous, on est ici, on s'est coordonnés entre nous. Voilà. Quand lui, il a cassé le lion, là, mais, il a dit maintenant, il faut qu'on attaque là où il y a les intérêts de l'État. À Kwawa ou à Thio. Puis comme eux, c'était proche de Thio. Donc les gens, ils sont familles avec les Nagedi, Thio. Ils ont décidé. Puis nous, on a dit maintenant, nous, on va à Kwawa. Et les gens de Kwawa, ils ont refusé. Que nous, on va en bloquer. Voilà. On se concentre tout à Thio.
Le combat ne doit pas cesser.
Le combat ne doit pas cesser.
Le combat ne doit pas cesser.
Éloi Machoro. Un super héros pour Kanaky. Un documentaire sonore de Benoît Gaudin. Quatrième épisode. Thio.
Le grand centre minier de Thio, là, mais il n'y a rien. Quand tu arrives à Thio, tu penses que c'est une grande ville. Mais... Ça, on retourne à 150 ans en arrière. Hein? Parce que toute la richesse de Thio, là, mais ce n'est pas à Thio, il est en France. Ils n'ont rien fait pour Thio. Mais le seul truc qu'on a hérité de la mine, de la pollution.
À 20 000 km de Paris, sur la côte est de la Nouvelle-Calédonie, voici la baie de Thio. Nous sommes au pied de la plus importante mine de nickel du monde. Les ressources de ce plateau de Thio, à 400 mètres au-dessus du niveau de la mer, ont été découvertes en 1863. Exploitées par la société française Le Nickel depuis 1881, ces mines représentent aujourd'hui encore la principale richesse de la Nouvelle-Calédonie.
Thio, c'est une commune minière, c'est la commune historique de la société Le Nickel. C'est un gisement qui est exploité depuis plus d'un siècle. C'est la plus grande mine à ciel ouvert du monde. Donc Thio, c'est aussi le berceau et puis le lait nourricier qui va faire grandir la SLN, qui va la consolider, qui va faire sa fortune quasiment.
Olivier Houdin, historien.
Et puis Thio, c'est aussi le symbole d'une ressource dont les Kanaks sont complètement exclus. Sinon, de participer à employé, salarié, rouleur, etc., pour le minerai. Mais toutes les instances dirigeantes de la SLN à cette époque-là, il n'y a personne qui, hormis dans les postes dans les commissions paritaires où sont représentés les syndicats, il n'y a pas un Kanak qui siège dans les instances officielles de la SLN. Et donc, tu vois, là, c'est ce symbole-là. Et donc, Eloi Machoro décide de faire le blocus terrestre du village de Thio, et surtout d'essayer de porter une atteinte, peut-être pas définitive, mais en tout cas provisoire, à la puissance de la SLN. Et donc, pendant 3 semaines, Thio va être complètement coupé du monde, et Eloi Machoro va se rendre maître de toute cette région.
Kanala, 99% indépendantiste et kanak. Et Eloi, il tournait en rond. De toute façon, la commune, elle était acquise. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Il y avait juste à attendre. Puisque, bon, on fait le blocus. Mais quand tout le monde est d'accord pour le blocus, tu ne bloques plus rien, finalement.
Luc tourna bien.
Par contre, à Thio, les kanaks étaient minoritaires. Il y avait 44%, je crois, un truc comme ça. Je me rappelle, je ne l'ai plus. J'ai mis dans mon bouquin, à l'époque de kanak. Et les restes, bah, c'était des caldoches et des javanais, d'autres ethnies, enfin beaucoup de gens qui étaient venus pour travailler à la mine. Et ces gens-là, bah, ils n'étaient pas indépendantistes. Donc ça faisait, pour des gens comme Eloi, qui font partie coutumièrement des mêmes clans, des mêmes familles de la zone Khanetu, hein, Kanala, Thio, Bouloupari, La Foi, ils parlent la même langue, ils sont cousins, ils sont famille. Et donc, la moindre des choses, c'était de prêter moins forte aux Kanaks de Thio. Et donc, ils sont venus en groupe, quoi, tout, pas mal de jeunes, avec Eloi un peu, on va dire, à leur tête.
Les gens de Kanala, quand ils sont allés à Thio, ils n'ont pas été n'importe où. Ils ont été voir Régis. Régis, c'est qui? C'est Toura. Toura, c'est qui? C'est la grande famille de Thio. Voilà. S'ils passaient ailleurs, ben, Régis Toura. Il aurait vu ça passer ailleurs, il va dire, mais c'est quoi ça là-bas là?
Mais comme on est famille, on est toujours en relation.
Régis Toura, membre de la chefferie de Thio.
Parce que dans la coutume, ben, on sort du même clan. Le même clan de Nagedi. Voilà, c'est ça les liens familiaux avec lui, avec Eloi. Mais comme il vient à Thio, mais il n'y a pas de problème, comme on est en famille. Voilà, c'est comme ça, le lien avec Eloi, mais c'est depuis les vieux, les anciens. Il y a toujours les liens. Puis avec lui, mais on a repris le même lien. On a pas, voilà. C'est ça la coutume. Et nous, on tient toujours le lien coutumier que les anciens ont mis en place. Avant l'arrivée des Européens.
Alors c'est là que nous on est montés aussi pour donner un coup de main au fait, pour fermer la gendarmerie.
Charles Moindou.
Vous étiez au courant quand même avant?
Oui, non, on n'était pas au courant. Il est venu la nuit, lui. Voilà. Il est venu à la nuit, puis il a fait le geste coutumé à rouer, parce que c'est un passage obligatoire en fait. Les gens de Nagedi, quand là, il arrive, stop à la chefferie là, et la chefferie nous informe après. Voilà, c'est dans la démarche coutumière. Donc il a attaqué la gendarmerie, on est parti après le voir là-haut pour faire canasser la gendarmerie.
Puis
Xavier Tonchalet.
Je veux dire nos armes, quoi. Non on a, nos armes, on a coupé les bouts de, comment on appelle ça là, un kayak. C'est ça, lui, il a entendu. Eloi nous a dit, il faut préparer pour aller attaquer. Mais pour attaquer la gendarmerie, on a coupé les bouts de, nous, c'est pour taper les roussettes, quoi. Non un bout de kayak, chacun un bout de kayak comme arme.
Parce qu'il n'y avait pas assez de fusils.
Non, on n'a pas encore de fusil.
Il n'y a pas de fusil.
Mais c'est ça pour ça. Et nous, on monte dans les criques, derrière, ben, qui monte par la gendarmerie. Après, les autres, ils sont en train de
faire manifestation.
Les autres, ils montent, ils sortent, ils parlent en montant, ben, ils crient, quoi, les femmes de Thio, c'est un cousin, les autres, qui sont ici, là. Mitou, au clan bande, c'est eux qui font la diversion. Mais il vient vers de la portail là-bas, pour la portail qui est devant la gendarme là. Mais les gendarmes ils vont vers les autres, mais nous on rentre par derrière. Après on prend les machins de comment. Les landrouvres, tout ça, ils sont dedans, on prend les bouts de. Ben les machins, puis on met dans les réservoirs.
Deux.
Ben bon bike, le bout de.
Ah, c'est le morceau de
bois. On met après avec les. Comment. Ben là, les briquets là. Ouais. C'est pour faire si. Ouais, ne bouge pas si vous revenez, nous on fait exposer. Toi. les autres, le, comment on a oublié, il y a le comment l'Andrino, il est dedans. Mais c'est un cousin à moi de Queen, comment Pendy, il est mort. Pendy, Gustave, lui, il a vu que l'autre est. Mais lui, ça, il appelle déjà le comment. Il est au matin, il fait de, la communication avec les autres de nous, mais voilà le matin, le puma, il est posé là-bas. Là. Les autres sont à la porte, et le puma, il est posé de l'autre côté. Mais ils ne peuvent rien faire. Nous, on est debout avec les matins.
Les allumettes,
puis les matins. C'est comme ça qu'on a pris la gendarmerie. Mais moi, il faut qu'ils se reculent. Nous, on a fait prisonnier dans les gendarmes. Ceux qui étaient devant nous, on occupait. C'est comme ça qu'on a pris le.
Puis là, il prend pression pour dire. Pour libérer Yéwené. Parce que je crois que Yéwené, il était emprisonné à. Je crois à Marais aussi.
C'est lui.
C'est lui, voilà. Puis là, c'est la pression aussi à Thio pour libérer leur tabac.
On les a gardés pendant toute la journée. Le soir, on les a libérés et on a quitté la gendarmerie.
La justice coloniale libérés.
On s'est réunis en fait dans le village, en fait, avec lui et Loi, et les militants du FLN. On a fait des campements, en fait. Lui, il s'est campé là-bas, au village, par rapport au Roux. Alors c'est lui qui régnait l'ordre là-bas dans le village jusqu'à Ouroué. Alors on s'est campé, on avait Ouroué, lui, moi ici au rond-point, un autre Tomo au champ là-haut à Saint-Pierre, et moi au dernier là, chez moi quoi, Croix-Roi et quoi.
C'était les barrages.
C'était le rond-point, voilà.
Les tribus. Se répartissent en quelque sorte le secteur de route qui est près de chez eux. Et ils mettent des pneus, des tas de terre, des branches, des trucs comme ça sur les axes pour éviter que les gendarmes viennent, pour éviter la circulation. La quasi-totalité du temps, y a une dérivation possible parce que leurs propres véhicules ou des véhicules de gens qui ne leur posent pas de problème peuvent passer. Il y a des profs qui passent, il y a des gens qui passent les barrages. Hein. En fait, quand on parle de blocus, c'est un blocus pour les adversaires, pour ceux qui ne veulent pas voir sur les routes. Quoi. Mais il y a un certain nombre de gens qui peuvent passer. Ce n'est pas un blocus final, définitif, dur, méchant. Tu approches avec ta voiture, on te tire dessus. Non, pas du tout. Tu viens avec ta voiture, tu discutes, on peut passer, on ne peut pas passer. Non, là, c'est bloqué, c'est fermé, retourné. Ou au contraire, ah ouais, passe, c'est bon, ouais, j'ai un malade, je vais à la pharmacie, j'ai ceci, j'ai cela, ok, vas-y, c'est bon.
L'occasion, c'est quoi ? L'occasion, c'est celle-là. Nous, on prend une semaine à Thio, on revient, on remonte là-haut, et t'as une autre équipe qui vient, ça c'est l'organisation pour tenir sur les barrages à Thio.
Ils vont quoi, non ?
Mais attention, c'est énorme, hein, l'organisation, il fallait mettre une organisation sur place. Ouais. Sur le site, au moins, on était à, on va dire, 250. 300 en permanence, là. C'est un tas, quoi. Puis t'as les autres qui allaient, qui revenaient, qui allaient, qui revenaient, quoi. Puis t'as toute la logistique derrière, où toutes les voitures, tous les deux jours, ça traversait le petit cara, hein. C'est ça, quoi. Nous amener à manger, quoi. Parce que ceux qui étaient à la responsable, du moins les vieux, là, mais ils avaient déjà prévu qu'il fallait tenir dans le temps, quoi. Il fallait inscrire la durée, pour parler qu'on s'inscrit dans la durée. Et on a tenu, les gens, ils ont tenu.
Oui, ben, là, il y a les femmes, là, ils sont tous de Thio, mais ils sont des différentes tribus, parce qu'à Thio, il y a 8 tribus. Moi, vous voyez ici, elle vient du bord de mer, Borandi, là-haut, ici de Borandi. Et puis, elle vient d'une tribu de la chaîne. Ils sont deux, la tribu de la chaîne, il y a Saint-Pierre, là-haut, puis Windo. Là, vous voyez toutes les femmes ici, là. Là, ils sont venus, vous les voyez, ils entendent préparer à manger, ils font la cuisine. On fait la cuisine parce qu'on se sent concerné aussi. Toutes les femmes que vous voyez ici sont toutes bien connectées.
Mais les femmes, ils étaient pas dépendantes de la lutte. Ouais. Ils restaient pas à la maison, ils ont fait l'embarras dans la cuisine pour faire la bouffe à tous les militants. C'est les femmes. Mais c'est grâce à eux qu'on a réussi à tenir longtemps. Voilà.
Oui, les femmes, c'est plutôt en bas. À la logistique, Mais sinon, il y a des femmes qui venaient aussi avec nous.
Voilà. Sur les barrages.
Sur les barrages. Pas tous, quelques-unes qui avaient.
Gaëtan Soma Dowade.
Tio, c'est pas pareil, Kanala. Kanala, c'est les hommes qui sont devant. Puis toutes les femmes sont là, à la cuisine, aux enfants. Mais à Tio, c'était les femmes. Pas beaucoup, quoi. Ils étaient bon, là, on comptait. Ouais. Mais seulement, s'il fallait marcher devant, on marche devant.
Ouais. Moi, je ne suis jamais allé sur les barrages. Jamais. Jamais je ne suis allé. J'étais dans les cuisines ici, là. C'est sur moi qu'on reposait ma cuisine. Voilà.
Marie-Adèle Jaurédier.
Et les mamans, c'est. Si les barrages fonctionnaient, c'est parce que les mamans vont fonctionner dans les cuisines. C'est elles qui allaient chercher. On s'est organisé pour aller chercher la nourriture. Les mamans déterraient leur taro, leur manioc, leur igname, coupaient leur régime de banane, puis on tassait quelque part, puis nous, on allait chercher. Les hommes, ils étaient avec leur fusil. Les mamans, c'est elle la lutte. C'est pas les hommes tout seuls.
C'est elle.
Quand ils parlent, ils disent c'est grâce aux femmes. J'ai dit, la lutte, c'est les femmes. Pourquoi vous voulez tourner au dos du pot? Et puis, elle chantait. On se mettait à chanter dans nos cuisines. On se met parce que il fallait qu'il y ait de la joie dans ce que nous faisions. C'est... Ben oui. Et heureusement qu'il y avait ça.
Cet homme, c'est Éloi Machoro, ministre de la Sécurité du gouvernement provisoire. C'est l'indépendantiste le plus décidé des leaders du Front de Libération Kanak. Il est parmi les militants indépendantistes le plus redouté et sans doute le plus haï de la communauté européenne. Éloi Machoro se méfie d'ailleurs de tout le monde, et en particulier des hommes politiques, quel que soit leur bord.
À lui, Éloi, il était respecté par tout le monde. Quand il dit de faire ça, il faut faire,
Louis Machoro.
Parce que le plan qu'il a fait, là, c'est ça nous concerne tout le monde. Donc quand il dit de faire ceci, en fait, une fois qu'il donne les sondes, là, il part sur Yengen, tout ça, Wallon, on descend là. Puis le matin, il faut que ce soit à Tio. Parce que tout le monde, il y avait un barrage, à partir de Tio jusqu'au nord, là-bas, pour faire le tour. Avec sa vie voiture, là, avec ses trois, comment ça s'appelle, bras droits, là.
Machoro, c'est le chef ici. Et tout le monde l'écoute.
S'il dit faire quelque chose, on fasse.
Atio, tout le monde le respectait. C'était le chef. Mais lui, il ne voulait pas. Il voulait que ce soit par consensus les décisions qu'on prenait. Voilà. Même il allait jusqu'à voter, faire voter.
Mais tous responsables, il ne faut pas toujours mettre tous les doigts et l'eau. J'ai loi, mais attends, il y a des choses qu'on a fait, ils ont demandé. On est conscient, on sait que c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis on assume après. Voilà.
Thomas Dathieu.
Tu vois, par exemple, les jeunes disent Éloi, c'est le chef. Mais Éloi, quand on est parti, quand on a fait les réunions politiques, il a dit chacun assume ce qu'il fait. On est tous des militants. Il n'y a pas un chef. Vous êtes conscients de ce que vous devez faire. Voilà. On a été conscients.
Je ne sais pas comment l'expliquer. Pour un Européen, on a toujours l'impression que c'est plus structuré que ça n'est chez les Kanaks. C'est structuré, la personne est écoutée, mais elle peut être aussi contestée, même si le secrétaire général, si les gens autour de la table ne sont pas d'accord. Donc c'est pas militaire du tout, hein. C'est pas militarisé les échanges. Mais c'est vrai qu'il avait cette aura-là, voilà, ça c'est clair.
Mais nous, comme on était les plus jeunes, à l'époque, j'étais l'un des plus, dans les équipes de jeunes.
Gaston Nédeneau.
On nous a demandé de ne pas être en avant, de rester à Ouai et d'attendre que les... de laisser les équipes, c'est, je disais qu'il y avait des équipes, c'était bien organisé, hein. On avait bien mis en place des équipes choc, on appelait ça, là. C'était ceux qui devaient faire les durs, quoi, hein. Qui devaient être au contact, et puis, et nous les jeunes, ils nous laissaient, c'est ça qui nous a beaucoup marqué sur le vieux, c'est que les jeunes qui étaient là, ils nous parlaient pas, mais ils avaient une façon de nous parler, ou de dire, de faire passer le message aux responsables qui étaient là, en nous donnant du travail à faire, qui nous parlait beaucoup, quoi. Je veux dire, un exemple, c'est pendant la période de prise de Thio, là, où on a commencé à sentir, parce que les magasins, ils ont été sabotés par des gens, là. Et on a commencé à sentir la puanteur dans les magasins avec la viande, les poulets qui... Il nous a demandé, nous les jeunes, de prendre les véhicules qu'on avait réquisitionnés de la SLN et d'aller nettoyer les magasins du village. Et c'est ce qu'on a fait. En sachant que les gens, les habitants de Thio, ils étaient chez eux, barricadés. Et nous, on a été nettoyer, ramasser les poulets qui sentaient mauvais, tout ça. On a chargé tout ça dans les camions, dans des congélateurs, puis on a été vider ça au dépotoir, à la mission. C'est pour dire qu'il était assez pédagogue aussi avec les son côté instinct là, qui faisait les choses, hein. En nous disant, parce que nous, on pensait qu'on est là-bas, on allait tuer tout le monde et tout ça, hein. En fait, c'était pas ça le but. Hein. Ils nous faisaient comprendre par des actions détournées, non, qu'il fallait prendre en compte les gens qui étaient là. Et nous, on s'est retrouvés à nettoyer les magasins, enlever les poulets qui puaient, qui sentaient mauvais pour que les gens ne soient pas contaminés. Puis... Et c'est là qu'on s'est rendu compte, c'était quand même quelqu'un qui était réfléchi, puis on n'était pas venu faire ça, en fait. Hein. On était sur autre chose.
L'idée, c'est de casser l'économie. L'idée, c'est de montrer que le pays, il est en blocage complet et qu'on veut affirmer que tout est au point mort. L'activité minière, elle est bloquée, mais ordre logique des lois et de son groupe, quoi, et puis de nous, de Thio, c'est on ne touche pas aux infrastructures, on ne touche pas aux choses, parce que notre but, c'est en fait le blocus. On gagne l'indépendance. Bon, c'était un peu naïf. Les faits l'ont démontré après, mais l'idée, c'est on fait un blocus, on ne casse surtout rien, on fait le blocus de l'alcool aussi, parce qu'on ne veut pas de débordement, on ne veut pas de mort, on ne veut pas de viol, on ne veut pas de conneries comme ça, on veut que ça soit propre, et on veut surtout pouvoir reprendre des outils de travail après avec l'indépendance, pour justement prospérer plus. Donc l'idée, elle est là, elle n'est pas de tout péter.
Ils avaient fait passer un militant à l'époque, là j'avais assisté, un militant qui était sous au barrage. Il a passé un peu, on va dire, au conseil de discipline. Là, ils l'ont engueulé, puis tout ça, puis après ils l'ont rapatrié sur Canada. Hein, pour dire qu'il n'avait pas sa place là. Ou quoi. Ah oui, non, il était assez soucieux de la discipline. Hein. Puis des messages à faire passer. Hein.
Quand ça déborde, ça déborde. Hein. On ne peut plus contrôler. Mais c'est quoi que ça l'a découragé un peu? La réaction des militants. Parce que c'est, il faut brûler, il faut chasser, les Européens. Mais lui, ce n'était pas ça. C'était de lutter contre le monopole à Nouméa. Puis le gouvernement français, il faut qu'il reconnaisse que nous, on est là, il y a un peuple. Il y a un peuple qui est là. Parce que nous, on n'est pas reconnu en France comme un peuple, le peuple kanak ici. Mais après 84, ça y est, les gens commencent à comprendre, ouais, mais il y a un peuple là-bas. Mais c'est que Éloi voulait qu'on prenne notre indépendance dans le calme, pas dans la lutte armée.
Et c'est là qu'après, vous avez le Comte des Sapins à Thio, qui va brûler, enfin, avec du saccage de matériel.
Gérald Corto.
Et qu'en fin de compte, on va découvrir que ce sont des mercenaires là, qui sont venus mettre le feu. Et quand l'enquête est faite, que ce ne sont pas les gens de Thio. Voilà. On voulait faire passer ces actes-là comme provenant du monde kanak, alors qu'en fin de compte, ça provenait pas.
Des anti-indépendantistes.
Oui, c'est des anti-indépendantistes qui viennent.
On a été obligés de se montrer, de faire voir qu'on est là.
Caroline Machoro-Régnier.
Quand Éloi est à Thio, on n'a jamais vu autant de journalistes dans le pays. Puis il y avait de tout, il y avait des Australiens, il y avait des Français, pratiquement toutes les chaînes françaises étaient ici. Il y avait des Australiens, il y avait même des Américains, il y avait du monde entier. Et c'est ce qu'on voulait. Donc c'était quand même une opération d'envergure. On a toujours eu tendance, enfin ceux qui dénigrent ces événements-là, que c'était Éloi avec quelques esprits, machin, qui étaient à l'origine de tout ça. Et puis que voilà, quoi, ils avaient fait leur petite guerre, là, et puis... Mais pas du tout, c'était véritablement quelque chose dans un objectif précis. Faire connaître notre combat pour la dignité du peuple kanak et le faire connaître au monde, puisque la France s'évertuait à nous méconnaître, à méconnaître notre combat et surtout à minimiser l'importance de ce combat-là. C'est rien, c'est...
Nous, quand on écoutait la radio sur ce qui se passait à Thio, on était sidérés. Parce que entre ce qu'ils disaient à la radio et nous sur le terrain, on ne comprenait pas comment ils pouvaient dire des trucs comme ça alors que c'était complètement faux.
On entend des choses qui disent tout le contraire de ce qu'on est en train de faire. Ils disent qu'on est en train de violer alors que nous, tous les soirs, on tourne dans le village pour sécuriser les... On était même en train de sécuriser les habitants de Thio. Pour qu'il n'y ait pas de... On faisait la police, quoi. Il n'y a jamais eu de viol. Ils ont même dit qu'il avait violé les Wallisiens. Alors que ce n'était pas vrai. Les Wallisiens, ils étaient là. Ils étaient même sur le barrage avec nous. C'est parce que les gens, ils mangeaient. Et ça faisait mal, quoi. Ça faisait mal. C'est là où, en tant que militant, on a commencé à voir aussi toute la... Je veux dire, toute la communication de l'époque, quoi, qui était là, qui faisait en sorte de dire, qui dénigrait les Kanaks, et qui est là, on le voyait en dénigrant la lutte, quoi, de dire que c'est des sauvages, c'est des voleurs, c'est des violeurs, et tout ça, alors que non.
C'est des journalistes de Paris Match qui ont fait une magnifique photo sur le pont de la Thio, je crois, avec ceux qui faisaient le barrage. Et ils leur ont demandé de lever le tamioc, de lever le fusil, etc., tu vois, et d'avancer, enfin bref, ils ont posé un peu pour la photo. La photo, elle a fait deux pages de milieu de Paris Match, et la légende en dessous de la photo, alors je ne me rappelle pas les paroles exactes, mais l'idée très... je crois que je l'avais noté, c'est les canaques, les yeux injectés de sang, ivres d'alcool, s'avancent. Et il y avait zéro personne alcoolisée. Et s'ils s'avançaient en levant le tamioc et le fusil, c'est parce que les journalistes leur avaient demandé. C'est un truc de fou, quoi.
On a toujours dit ça. Kanak, c'est un violeur, c'est un voleur, c'est... Voilà. Puis ça s'est accentué quand on était à Thio. Bon, les gens prennent... Moi, quand j'entendais ça, j'ai dit, mais c'est normal qu'ils disent ça, c'est pour pousser les autres, pour qu'ils soient forts, se rendent forts, que nous on n'est pas des êtres humains, quoi.
Mais on va dire qu'on nous avait vaccinés, en fait. Hein. On savait que c'est comme ça ici dans ce pays. Hein. Ça sera toujours comme ça. La seule solution, c'était l'indépendance. Hein. C'est un peu ce qui est dit encore aujourd'hui. Donc voilà. En 84, il y avait déjà ce discours-là. Quoi.
Un jour, il a stické un militant à nous. Avec un câble électrique. Là. Parce que lui, il n'était pas content avec les journalistes. Là. Il les a embêtés. Il a... Sur la table, comme ça. Et là, il s'est levé pour le...
lui expliquer que ouais, les autres là qui viennent, hein, c'est eux qui vont porter notre parole. Pas seulement dans le pays, mais vers l'extérieur. Mais c'est surtout vers l'extérieur. Voilà. Faut qu'on sache que nous, on est là. Et ça, c'est le travail à eux, c'est les journalistes. Et lui, il n'était pas content. Bon, maintenant, il a disparu. Il n'était pas content. Il s'est énervé et puis il a voulu bousculer. L'eau, elle a attrapé le fil, elle a astiqué.
Il y a un épisode amusant, mais encore très significatif. C'est qu'il y avait une nuée de journalistes qui étaient à Thiou parce qu'il y avait les barrages, parce qu'il y avait les lois, etc. Et à un moment, il y a des journalistes qui viennent nous voir, nous les membres du comité de lutte chargé des relations avec les journalistes, en quelque sorte, et qui nous disent, tu vois, c'est un renseignement généraux, il s'est mêlé à nous, mais ce n'est pas un journaliste, mais là, ça nous gêne, parce que si jamais vous le découvrez avant qu'on vous le dise, ben, vous allez nous en vouloir, et nous, on préfère vous prévenir. Parce que c'est au niveau éthique, ça ne nous va pas. Mais la réaction des copains, ce n'est pas de virer le journaliste, de tabasser, de quoi que ce soit. C'est de dire, ah ben c'est bien Luc, si un gars des renseignements généraux, il va dire à l'État français que toutes les conneries qu'il raconte sur nous à la radio, c'est pas vrai. Parce qu'apparemment, ils le croient, mais ils sont pas bien renseignés. Donc nous, on est content qu'il y ait un gars des renseignements généraux ici avec nous, parmi les journalistes.
On se demande tous les jours si on doit rétablir l'ordre nous-mêmes ou ce qu'il faut faire. On n'a plus personne pour nous aider, plus personne pour nous soutenir. On ne sait plus ce qu'il faut faire. On est là et on attend. Si les Mélanésiens attaquent, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait trop rien. Il est certain qu'on va se défendre, mais c'est pas une solution. Les Mélanésiens ici, nous, on travaille tous les jours avec. Et il y a en tout cas ces 10% des Mélanésiens qui sont indépendantistes. Le reste, ils marchent avec la France et ils marcheront toujours avec la France.
Il y avait une espèce de révolte caldoche en disant, mais qu'est-ce qu'il fout l'État français, quoi? Pourquoi il leur fout pas sur la gueule? Pourquoi l'État français ne se mobilise pas plus pour bloquer tous ces canards qui foutent des barrages?
Luc tourna bien.
Et eux, ils hésitaient à y aller parce qu'ils avaient compris quand même une chose, c'est qu'ils sont là dans le pays depuis 150 ans, ils ont noué des relations, même dominant à dominer, avec les Kanaks, et si les Caldoches se mobilisent avec des fusils contre les Kanaks qui vivent avec eux ou à côté d'eux dans la même commune, ils savent qu'ils en ont pour 50 ans d'hostilité. Donc, l'ambiance à Thio, comme dans d'autres endroits très certainement, c'est on hésite à intervenir nous, déjà parce que souvent en brousse on n'est pas majoritaire, donc on court des risques de représailles sévères, et on en veut énormément à la France qui est soumise au Kanak et qui donc est probablement gauchiste avec des idées communistes, qui fait que voilà, les Kanaks, ben, ils veulent le communisme, et puis la France va se mettre à genoux devant eux, l'espèce, leur histoire à la con, de libération des peuples et tout le bordel, c'est n'importe quoi, on leur a apporté la civilisation, heureusement qu'on est là, etc. On a mis le pays en valeur, ils devraient nous être reconnaissants, et comment ça se fait qu'ils se rebellent, mais franchement, et la France, mais elle n'a pas ouvert les yeux, quoi. Voilà l'idée de base qu'il y a, et il y a une profonde amertume, il y a une révolte, il y a un sentiment de frustration, d'injustice, et que la France a viré à gauche, voire à l'extrême gauche, quoi. Et qu'elle les abandonne. Il y avait des Caldoches qui étaient avec nous, hein. Il y avait plusieurs familles de Thio qui étaient indépendantistes. Et ça, ils ont ramassé, hein, parce que dans leur famille, on ne voulait plus entendre parler d'eux. Hein. Ça a été très très dur. Donc c'était un exploit de leur part de dire, ben non, nous on comprend, c'est normal quand même, il faut arrêter les conneries, quoi.
Le conflit que nous avons à l'heure actuelle, c'est un conflit entre ceux qui défendent les intérêts du peuple kanak et le gouvernement français. Non pas avec les Caldoches, mais avec les autres kanaks, mais le conflit, c'est le conflit avec le gouvernement français.
À Thio, on ramasse tous les fusils des Européens. On les noms. On va les voir. On n'a pas été volés. On leur dit, voilà, il vaut mieux qu'on prenne vos fusils. Vous serez en sécurité. Parce que si vous gardez vos fusils, vous allez nous tirer dessus. Et puis, il se peut qu'on riposte. Il vaut mieux que vous nous donnez vos fusils, on va bien noter, puis on va vous rendre le jour que ça va aller mieux. Ils nous ont donné les fusils. On a passé par tout, donné les fusils.
Vous avez fait le tour des fermes, comment ça s'est passé?
Ah oui, ouais, tous les maisons. Des groupes, hein? Groupes oui, on a fait des groupes. Mais tous les maisons des colons à Nouméa, comment à Thio, on a tout récupéré les fusils.
Berger Pérignon.
Et je me souviens d'une famille, je suis rentré, j'étais avec deux copains. On est rentré, puis On a trouvé deux calibres 12. Puis dans l'armoire, il y avait des munitions. Puis ils l'ont caché, hein, ils l'ont porté, c'est un 270, je crois. Et ils ont pris le fusil, ils l'ont foutu en dessous le matelas. Puis ils l'ont posé le petit bébé. Le petit bébé, il était sûr. Mais comme j'ai vu les munitions, je leur ai demandé. Mais il est où le fusil? Comment ça se fait que vous avez ce... Non, on n'a pas le machin. À force de réfléchir, j'ai dit, mais lève le bébé d'ici, là, sors le bébé. Là. On sortait le bébé, là, on a soulevé le matelas, puis le fameux fusil, l'ont porté, il était caché en dessous. C'est comme ça, mais sans les... On a fait ça, c'est en douceur, tu vois, c'est pas brutaliser les gens. Non.
On était avec des casse-têtes, même pas des tamioc, sans plus, hein. Sans plus. C'est quand on a saisi les fusils qu'on a commencé à avoir des armes. Et qu'on s'est rendu compte qu'il fallait être armé en plus. Il y a quand même quelque chose qui a commencé à alerter, c'est le... Quand on a commencé les barrages, on s'est fait... Il y a un coup de fusil qui a été tiré à l'époque. Là. Et nous, on n'avait pas de fusil. C'est à partir de là que le vieux, il a commencé à colliter qu'il fallait qu'on ait des armes, quoi. Je pense qu'au début, c'était pas pour éviter tout débordement ou des choses comme ça. Mais une fois que la discipline de l'organisation elle a été bien mise en place, après, il n'y avait plus de problème. Parce que une fois les fusils distribués, on n'a pas eu de problème de on n'en a pas eu de choses.
Le combat ne doit pas cesser. Éloi Machoro, un super-héros pour Kanaki.
C'était ce fameux jour là, quand on avait fait le fameux coup, là, récupérer les fusils, là, c'est là que les mobiles sont arrivés. Là. Ils sont posés sur le terrain à la mission. Là.
Pas pour moi, Eloi, il a su que les Pumas sont arrivés. Il nous a dit on va encercler le terrain de football.
Et il est parti de l'armée qui est venu. Tu vois, ils se sont posés en bas, là, dans la plaine en bas, avec les hélicoptères. Et nous, on était autour. On les a désarmés. Puis on n'a pas désarmé, on les a mis à jour. On les a encerclés, puis on les a mis à jour. Puis eux,
il y avait du monde autour.
Ah oui. On était, ouais, tout. Les Nagedi, ouais, toute la région, là. On était là.
Moi, je vais à mes occupations et j'entends une vibration qu'on connaît bien parce qu'on a déjà vu des pumas. Et ça, les pales d'hélicoptère, elles font c'est pas un gros son, mais c'est une espèce de vibration, blouk, 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 comme ça, là, qu'on entend dans l'air. Et j'entends ça de très loin. Et je sors de chez moi. On me disait, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis je vois, alors je sais plus, 6, oui, tu dis, je me rappelle, je l'avais noté, donc 6, oui, c'est ça. Donc ils suivaient la vallée, ils étaient parfaitement alignés à égale distance. C'était, on aurait dit qu'on était aux Champs-Élysées pour le 14 juillet. Le premier hélicoptère, il arrive dans les grandes herbes et il se met il n'atterrit pas. Il reste en surplace à même pas un mètre de hauteur. T'as des mecs qui sortent, qui descendent, qui sautent avec le fusil et qui font un roulé-boulé avec leur fusil. Et l'hélicoptère, il repart. Et le suivant arrive pile à ce moment-là. Ça veut dire qu'il y en a, je ne sais pas combien, qui sont sortis du premier. Pof, le deuxième tout de suite, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Ça se passe vraiment, c'est millimétré. Et puis après, ben, on ne voit plus rien parce que les mecs, ils se couchent dans l'herbe. Et l'herbe de Guinée, elle est quand même assez haute. C'est une herbe assez... En fait, s'ils avaient voulu les tuer, ils auraient fait un tir nourri dans l'herbe à l'endroit où ils étaient. Si tu mitrailles dans l'herbe là où ils sont, ils vont forcément les toucher, quoi. Et c'est pour ça, moi, j'ai pas compris comment ça se fait qu'ils se collaient dans ces grandes herbes. Donc c'est un peu étrange.
Les gendarmes, ils sont au milieu. Nous, on est côté avec les petits fusils, de rien du tout, fusils à plomb, là. Il y a un petit handicapé, là, il est mort, c'est un petit cousin à moi. Voilà les mecs qui ont combattu avec Eloi à l'époque. Il a même tiré sur un hélico, là, avec un petit fusil. Le fusil, j'avais quoi? J'avais dit là-bas. Petit calibre 20 ou pas quoi, là.
Ouais. Tu connais quand tu es avec Eloi, lui, il n'a pas peur, mais tu es obligé de ne pas avoir peur aussi. Ah oui. On était là avec les. Machin, calibre 12, calibre 16. Puis on dit aux gendarmes, descendez, descendez. Descendez. Et eux, ils sautaient. Puis on les. Allez, levez-vous, puis mettez-vous en machin. Mais ils n'ont rien pu faire. Nous, on était là, puis on était très menaçants aussi. Moi, je me rappelle, j'étais là avec un calibre 12 automatique, mais il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de cartouche. Et puis c'est Eloi qui donnait les ordres. Il avait. Ah, il avait un 222 là. Allez, alignez-vous, alignez-vous. On ne va pas vous tirer dessus si vous ne tirez pas dessus. Bon, Eloi n'était pas proche aussi, toujours de loin.
Eloi l'a dit. Parlez avec un
microphone.
On va les emmener au gendarmerie là-haut. Ils marchaient au milieu, puis nous, on est de côté là. On s'est emmené au gendarmerie. On les a laissés là-haut au gendarmerie.
Et à aucun moment, ils ont essayé de tirer ou de.
Non, mais ils sont toujours avec la fusil comme ça. Puis nous, on est autour, quoi. Ouais. On les a emmenés à la gendarmerie.
Et là, vous les avez mis avec les autres gendarmes?
Voilà.
D'accord.
Après, Eloi les a parlé, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a dit à les autres. De ne pas bouger de là-haut.
Ils sont pas restés longtemps au village. Ils ont rejoint d'autres villages qui s'étaient fait prendre au pont. Ils avaient fait la même opération, hein, les gendarmes. Et ils s'étaient fait prendre pareil. Parce que, il y avait des militants partout. C'est vrai que quand ils disent une poignée de Kanaks, ce n'est pas une poignée, c'est la population qui était là sur les barrages. C'est toute la population. Donc, je veux dire, il y avait des centaines de personnes, ils étaient là, attendent bêtement. Alors comme ça faisait un jour, deux jours, trois jours, une semaine, 10 jours, 15 jours qu'ils étaient là, les autres ont dû se dire, il ne doit y avoir plus personne sur les barrages, quoi. Ben si, ils restaient. Puis les femmes leur apportaient les marmites à midi, puis le soir, et puis ils restaient là, ils discutaient, c'était un peu chiant, hein. Surtout qu'il faisait chaud. Mais voilà, ils discutaient, puis ils attendaient que ça se passe. Et ça a porté ses fruits, puisque du coup, ils ont bloqué quand même le GIGN.
Et puis peut-être ils pensaient qu'on était des mercenaires ou des trucs.
Régis Toura.
Mais nous, on faisait ça, mais on rigolait. Tu vois. C'est pas possible que nous, on va mettre en joue l'armée française. Puis eux, ils se sont rendus comme ça, sans résistance. Puis nous, maintenant, on pense à quoi. On repense maintenant, mais on a eu la chance parce qu'eux, ils n'ont pas réagi. Ils ont réagi, on nous tire dessus, mais nous, on est avec les calibre 16, mais c'est pas des fusils de guerre. Et puis aujourd'hui, on repense à ça, là, mais on a eu la veine, parce qu'ils étaient réagis, mais nous, on n'avait pas pu les attaquer, parce qu'ils sont armés, bien armés, avec les fusils FAMAS, et tout ça. Là. Mais nous, c'est avec les calibre 16, puis tous les. On tire le cerveau. Ben voilà, ça c'est l'histoire à Eloi, ici à Thio. C'était qu'on a réussi à maîtriser l'armée française. Mais c'est une déshonorant pour un grand pays comme la France. Hein. Mais lui, c'est la troisième puissance mondiale. Ben. Puis nous, les jeunes. Les jeunes inconnus là, qui les mettent en déroute là. Ben. On les a amenés là, puis après c'est fini. C'est bon, on continue nos barrages, puis ça. Mais eux, je crois qu'ils ont rebattu les hélicoptères, ils ont venu les rechercher.
Ils ont été humiliés quand même à ce moment-là. On peut considérer que l'État a été humilié du fait que toute une compagnie de toutes ces personnes aient été encerclées et empêchées de nuire par quel dégueu, quoi. Enfin, pas des gens qui n'étaient même pas des soldats, des vrais soldats.
Voilà pourquoi l'État français, il était vexé par rapport à ça. Voilà pourquoi il a descendu les lois. C'est par rapport à ce chef-là. C'est par rapport à ce chef-là. C'est pas pour autre chose, c'est par rapport à ça, là. L'État français, il a été vexé par ce qu'on leur a fait.
La vengeance des Caldoches en Nouvelle-Calédonie, le climat de peur instauré par les Kanaks indépendantistes a poussé des Européens à non seulement prendre les armes, mais à s'en servir. Ils ont tendu une embuscade à des Mélanésiens dans la vallée de Yeyeng, sur la côte est du territoire d'outre-mer. Bilan 9 morts et 5 blessés, tous tués par balles et par chevrotines. Parmi les victimes, 3 frères de Jean-Marie Tchibaou, le leader des indépendantistes.
Les Caldoches du coin ont organisé une embuscade. Et donc les Kanaks de la tribu de Tiendani, tout à fait au fond de la vallée, rentraient chez eux en voiture. Hein, et donc ils ont été attendus et bousillés. Tous ceux qui ont réussi à s'en sortir, hein, qui ont quitté les 4x4, la voiture, hein, ils ont été poursuivis et tués sur place. Ceux qui étaient blessés ont été, comme on dit, liquidés. Liquidé. C'est véritablement un assassinat. Un assassinat. Que des assassinats.
Gustave Théot, avocat.
Si un Kanak qui est blessé et qui a été trouvé, il ne peut pas être vivant. Il ne pouvait pas être vivant. Systématiquement, il s'est tué. Soit le Kanak il est blessé, il a réussi à se cacher, à plonger dans la rivière et puis s'éloigner et il se retrouve être vivant. Mais autrement, ils sont tous tués. Quel était le but de cette opération d'embuscade? Tout le monde le sait. C'est parce qu'ils pensaient que Jean-Marie Tchibaou était dans la voiture. C'était pour tuer Jean-Marie Tchibaou. D'après ce que nous avons su, c'est que ce sont des ordres qui sont venus de Nouméa. De qui? Ça, on ne sait pas. Mais devient de Nouméa. Or, les tueurs, les assassins, hein, les assassins étaient entre guillemets du groupe loyaliste. Donc nous devinons, sans pouvoir mettre le nom sur l'auteur.
Sur voilà. Le commanditaire.
Sur le commanditaire. Voilà.
Et quelle va être la réponse de la justice?
La justice, naturellement, l'instruction, comme d'habitude, la procédure respectée. Et puis, cour d'assises, qui a eu lieu au FOL, au bâtiment de FOL. Et là, donc, il y a eu la cour d'assises est composée uniquement de Caldoches. Résultat, ils sont tous acquittés. Voilà.
Et leurs fusils remboursés.
Oh ben oui, naturellement.
C'est à la radio, je crois.
Une radio.
Mmh, je crois que c'est à la radio qu'on a tout écouté ça. Mmh.
Mmh. Entendu à la radio, tout le monde était sur Dieu, c'est à la radio.
On devait débarquer sur... C'était pas déjà préparé le car, les voitures, tout, pour en descendre sur un gain.
Et c'était quoi l'objectif à Yangon? Ils
ont tiré sur les autres, là, ils ont tué la famille. Là. C'est ça, ouais,
là. C'est ça, là. Mmh. C'était comme ça.
Bonjour, ils disent Yangon. Hein. C'est tout préparé, fusil, embouffé, tout. Ah oui, ça réalise. Nous, on prépare tout le matos, tout le monde. Les véhicules, la bouffée, les couvertures, les fusils, les cartes, tout. Les cartes, ils étaient prêts pour partir.
Autrement, c'est embouché, tu vois, quand on a su.
Louis Machoro.
Et là, on demandait à Elo, on fait quoi? On va faire pareil qu'à Yengel. Elle dit non, on fait rien. Autrement, boum. Ça va se passer comme Yengel, là, tu vois. Et Elo, elle n'a pas voulu que. On n'est pas venu pour laisser, on laisse les choses comme ça. On subit, c'est bon. Autrement, ça aurait été le massacre. Tu. Il a empêché d'aller à Yengue, il a empêché de faire des choses à Tio. C'est pour dire que la lutte qu'on a fait là, on ne fait pas n'importe quoi. On est sur un monde d'ordre, il faut aller sur le monde d'ordre.
On a tous les fusils, tout le monde.
Gaëtan Soma Dowade.
On va voir Eloi, hey, mais non, on va aller à Tio, on rentre dans Tio là. Parce qu'on était plutôt par ici à Ourou là. On rentre dans Tio, on tire sur les Européens, les Blancs, allez. Puis... pas d'accord. Puis on était trop nombreux. Il a dit, bon, okay, vous vous restez là, puis vous deux là, vous venez avec moi. Je vais vous expliquer. Il m'a fait rentrer, moi, bien. Gatilima, il a dit, il est parti, il est disparu aujourd'hui. Notre lutte est pure et dure. Elle est pure parce que, voilà, c'est. On revendique notre dignité et tout ça. Et elle est dure parce qu'on a les fusils, mais on n'a pas le droit de tirer. Vous avez compris? Oui. Vous allez expliquer aux autres dehors, moi, je reste là.
Voilà. Et tu es allé expliquer?
Aïe, c'est dur, parce que c'est moi le premier qui. Et puis j'ai rencontré ça sur d'autres barrages, parce qu'il fallait aller expliquer ça sur d'autres barrages. Et puis on a trouvé les mêmes choses qu'on a vécues là. Et puis j'ai dit à l'autre, tu continues à faire la réunion, et puis moi j'allais discuter avec les plus virulents là. Puis j'ai dit pareil. Vous avez compris? Maintenant vous allez expliquer non pas.
Mais là, il n'est pas sur la vengeance lui. Pas sur la vengeance. Il faut assumer. Voilà. Nous, là, on assume. Si on va pour tuer, mais on n'est pas là pour tuer les gens qui tuent d'autres. Parce que là-bas, on a tué d'autres, il faut les tuer comme ça. On n'est pas des mercenaires, non. On est un mouvement de libération. On ne joue pas dans les jeux, là. Nous, il faut avoir la tête froide. C'est le gouvernement. Puis là, quand j'en suis là, mais c'est tout ça, là. C'est tous les trucs, là, qui contribuent à ce que le gouvernement rencontre les FLN. Voilà. C'est ça l'objectif. Mais tu ne vas pas tuer parce qu'on a tué ton frère, qu'il va aller tuer le frère à n'importe qui, non.
Heureusement qu'Elo était là. Hein? Heureusement qu'il était là quand il y a eu le massacre des Yengen, qu'il était avec nous. Parce que sans lui, ben nous, on avait tous les fusils. Peut-être qu'il n'y a plus de blancs à Tio, là. Et heureusement qu'il était là. On a failli se battre avec lui. Tous les militants disent, on te comprend pas, Eloi, c'est quoi? Il y a les frères à Jamba, c'est des frères à Jamba, ils ont fait tuer là-bas. Là. Ouais. Non, non, non. Je veux pas de ça ici. Je vous ai dit le jour quand vous êtes venu avec moi, ouais, j'ai oublié de dire ça tout à l'heure, quand on est parti avec lui à Tio, là. Ceux qui ont peur, ils restent chez eux. Ouais. On va pour mourir. Peut-être qu'on ne va plus revenir. Voilà. Ceux qui sont faibles, vous restez à la maison. Et ceux que, voilà, qui veulent venir avec moi, ben, si on meurt, ben on meurt.
Et donc nous, on est là-haut et on assiste donc à cet enterrement-là. Et Jean-Marie, il est là et c'est une statue. Et le pire dans tout ça, c'est que ils sont transportés par des camions de l'armée. Et puis quand on connaît Tiananit, c'est une petite tribu, et puis c'est un pic, il y a quelques maisons, et il y en a 10 d'un coup qui partent comme ça, là. Ça fait un vide. D'une part, mais il y a aussi ces femmes qui pleurent et puis qui tapent sur les cercueils, là, ça résonne dans la vallée. C'est terrible. J'ai ressenti plus de choses à ce moment-là que même à la mort des lois. Comme j'étais pas préparée, on n'était pas préparé à ça. Et au moment de l'enterrement, Joseph Boirat, le cousin de Jean-Marie, je crois, Joseph Boirat lit un courrier qu'Éloi a envoyé. Et dans ce courrier, il dit « La vengeance est un plat qui se mange froid ». Je n'ai pas retenu c'est un petit mot, c'est un mot pas très long, très court, mais il termine par « La vengeance est un plat qui se mange froid ». Et moi, ça me touche parce que je me dis, ben, ce plat-là, c'est l'indépendance. On va venger nos morts le jour où on sera indépendant. Et je pense que c'est ce que veut dire aussi Éloi. Jean-Marie, le terme de Jean-Marie, c'est on lève le pied. On lève le pied déjà quand même. On lève le pied, puis après on verra. Et après, on a levé les pieds, on n'a pas levé les barrages. Les barrages ont continué à exister, mais on lève le pied, on ne fait plus trop de bruit. On fait pas, voilà. Oui, c'est difficile à accepter, ça. C'est difficile pour tout le monde, d'ailleurs. Mais bon, c'est Jean-Marie qui le dit. Ce sont ses frères, d'une part. Et puis, s'il dit ça, c'est que il y a quelque chose derrière, qu'il est en train de faire quelque chose. Donc, il ne faut pas non plus le gêner. Je pense qu'il est déjà dans des discussions, ou on ne sait pas.
On a levé, mais pas par notre cœur.
Les gens ne parlaient pas parce que
ça s'est passé chez eux à Yengen, quoi. Par contre, si, imaginez que ça s'est passé comme ça à Wailou. C'est une autre mentalité, comme à Kanala aussi. On ne pourra pas faire comme lui, c'est pas possible.
Ça a été respecté la décision aussi parce que c'était sa famille, son clan.
Oui, c'est lui, c'est lui-même qui le dit, quoi, en tant que frère.
C'est fort.
C'est fort. Hein.
Les gens, ils n'ont pas compris, on n'a pas compris. On n'a pas compris. Comment se fait-il qu'il y a quelqu'un de ta famille qui te fait tuer et qui te demande de ne pas pardonner, de ne rien faire. C'est dur. On vient de perdre Saint-Tien d'Anit, puis on a perdu pas mal aussi. On ne cite que les Saints de Wengo, on a les Zongo, on a les Kamunda, on a plein. Mais ça te laisse à réfléchir, quoi. Mais c'est sûr que le soir même, quand on nous dit de lever, ben pour nous, c'est impensable, quoi. Enfin, du moins, la génération, c'était impensable pour nous de lever. Mais lui, il ne voulait pas, lui. Éloi a dit non, il faut tenir jusqu'au bout. Et puis, après moi, il s'est retrouvé tout seul, quoi. Puisqu'on nous demande d'arrêter, lui, il ne veut pas. Enfin, c'est pas qu'il ne veut pas, mais lui, il a une autre vision, lui. C'est de continuer, quoi.
À Thio, par exemple, Éloi, il n'est pas trop chaud pour ça. Et moi, d'ailleurs, je n'étais pas chaud non plus du tout. Hein. Pour moi, je dis que c'est une folie de lever les barrages. Il y a une confiance dans le gouvernement français, dans la parole du gouvernement français, qui, à l'époque, montre quand même que les chefs politiques, pour eux, c'était des chefs importants, le gouvernement français, c'était des gens importants. Il fallait faire confiance à leurs paroles, quoi. Et en fait, ça a été trahi plein de fois. Eux, ils pensaient que le gouvernement ayant prévu de négocier et ayant dit « Ok, on va négocier, mais lever les barrages d'abord », ben, il fallait lever les barrages. Et nous, on ne le fait pas vraiment.
C'est ça, dans tous les moments de l'immigration. Ils vont maintenir la prison. Ils ont lâché les barrages, tout le monde va, ils chantent. C'est pas comme ça que ça se passe. Tu donnes l'arme au gouvernement. Non, c'est pas question. Voilà, pour maintenir la prison. Lever l'embarras, vous voyez quoi. Parce qu'on obéit. Parce que le gouvernement, vous levez l'embarras, on discute. Mais ils se croient où les mecs qui ont gouvernement parlent comme ça. Nous, on sait ça. Il y a des histoires de lutte de libération, on connaît. Que quand les gens ils ont lâché le gouvernement, là, tout. Non, faut maintenir. On n'est pas libéré. C'est pas parce qu'on négocie qu'on est libéré. Si le gouvernement dit qu'on donne l'indépendance tout de suite, on peut tout lâcher, mais il faut d'abord discuter. Pas comme ça.
Yone, il est venu en...
Victor Donaro.
En Puma, quoi. Et puis, il a parlé un peu sur la cour, là, mais nous, on était autour. Et puis, là, il n'était pas d'accord avec ce que Yone disait. Là. Mm. Ça fait qu'ils sont un peu...
Khadi,
non?
Chamaillé.
Mm, un peu chamaillé. Après, Yone, il est remonté dans le Puma, puis il est reparti. Mais on ne sait pas ce qu'il disait, là.
Est-ce qu'après le départ de Yewene, Eloi, il avait changé d'avis ou pas?
Non.
Bon, mais Léopold, aujourd'hui, il est venu avec Yewene. Ils sont venus à Puma, quoi. Alors Yewene, il est venu à la mission, il m'a trouvé, il dit, bon, mais je suis revenu appeler les militants d'ici, quoi, parce qu'Eloi, il était de l'autre côté. J'ai dit, mais alors, il y a quoi? Ben, on vient t'informer pour que tu lèves les barrages avec des militants, là. Ah bon? Mais pourquoi on lève les barrages? C'est quoi cet ordre-là que vous venez? On a déjà continué à commencer les barrages, mais il fallait continuer, en fait. Ah, il a dit, oui, mais c'est pas moi, maintenant c'est le bureau politique du FLN.
Du FNKS.
FNKS. Bah voilà, vous levez le barrage, puis on rentre chez vous. C'est mal passé, en fait, là, comme ils sont arrivés, et puis ils viennent en hélico. Pourquoi ils sont pas venus en voiture, tout ça? Ce serait normal qu'ils viennent en voiture, voir nous les militants, parce qu'on était sur le terrain.
Le jour où ils sont arrivés, nous on était en garde là, à Rouen. Et on savait qu'ils étaient venus nous voir pour demander de lever les barrages.
Gaston est de là.
On a eu du mal à accepter ça, là. De lever le barrage. Et le jour là, je me rappelle, on était avec l'autre vieux, le vieux Louis. Sur le poste. Et nous, on était contre le. Ben, pendant qu'il était en réunion là, on s'est quand même permis de tirer en l'air, hein, pour dire que. Non, on voulait pas. Il fallait qu'on continue, quoi. On voulait pas lever les bras. Ben, la plupart des militants, c'était un peu parti pour ça. Et je pense que le vieux aussi, c'est là où on a demandé. Il a dit qu'on ne lève pas les barrages, quoi. On continue le truc, quoi.
Oui, Yewene, il arrive à Tio. Et puis, il nous a laissé. Il a discuté avec lui, puis après, il dit, ben, tu vas avec les militants. Et puis, nous, on a dit à Yewene, il faut mieux que tu retournes. On ne va pas discuter avec toi. Yewene, il est rentré. Et puis, ils ont envoyé Léopold Jourdi. Ça y est, ça s'est mieux passé. Moi, j'ai pas entendu je les ai pas entendus discuter. Voilà. Mais je sais que l'arrivée de Léopold Jourdi a changé beaucoup de choses sur Eloi. Ouais.
Pour la première fois depuis 3 semaines, cette route qui commande l'accès au village de Thiot a été restituée à la circulation. Les barrages ont disparu sur le terrain. Pourtant, ce matin, dans son quartier général, Éloi Machereau, le leader local, se montrait déterminé à maintenir sa pression.
Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne va plus contrôler la région. On a mis un dispositif en place pour continuer à faire le contrôle qu'on avait avec les barrages.
Après, on a commencé à faire les barrages plus de temps. C'est là. On a commencé à faire des barrages plus de temps. Tout en sachant que ça devenait de plus en plus un peu plus dangereux quand on faisait les barrages plus de temps, parce que là, il fallait vraiment... faire attention, quoi. Quand les barrages étaient bloqués, on savait que personne n'oserait venir, mais là, il fallait être vigilant et tout ça, parce qu'on avait aussi le bruit que la droite, elle se préparait aussi. Hein. À côté, les autres, ils ne laissaient pas les choses. Ils commençaient à monter des milices et tout ça, donc nous aussi, on commençait à faire attention, à être plus vigilant sur la chose, quoi. Et aussi, par rapport à la mort des 10 de Yengen, quand on rentrait dans une autre phase, quoi, il y avait mort d'homme. Hein. C'était autre chose, quoi. Il fallait qu'on fasse attention. On était en même temps sur la discussion et en même temps sur le fait de tenir le mouvement, quoi. Donc on sentait que on était en équilibre, hein, au milieu du guet, quoi.
Le combat de l'indépendance, elle a déjà duré un moment.
Et loin de chauve.
Et elle va continuer encore à durer. On commence à avoir l'habitude de ce genre de choses.
Il n'y a pas de solution à moyen terme.
Pour ce qui concerne l'indépendance du pays, il n'y a pas de... Le gouvernement cherche toujours la troisième voie, mais il n'y a pas de troisième voie. Il n'y aura jamais de troisième voie parce que cette troisième voie, nous ne l'accepterons jamais. On prend conscience de notre identité, de plus en plus conscience. Et à l'heure actuelle, on est encore modérés, nous les vieux, ceux qui avons passé un certain âge. Mais les jeunes, nous pensons que les jeunes, plus tard, ça va être beaucoup plus mieux, il y aura moins de discussions.
Le combat ne doit pas cesser. Éloi Machoro, un super-héros pour Kanaki. Quatrième épisode. Tio. Un documentaire sonore de Benoît Godin. Musique originale et mixage, Simon Offray. Avec les voix de Yabé Lapachas, Jean-Louis Coroma. Avec le concours de l'Agence de développement de la culture Kanak. Yvon Colin, Emmanuel Chibaou, Alain Choupit, Karine Dervieux. Merci à Diana Machoro, Jean-Pierre Taïeb Haïfa, la famille Godin, Louise Baldini et toutes celles et ceux qui ont soutenu la création de ce documentaire. Archives, INA et ADCK. Une production Lampe Tempête. La suite dans le prochain épisode, L'ombre d'Ataï.
Vous venez d'écouter le quatrième épisode de la série Le combat ne doit pas cesser. La suite... Le cinquième et le sixième épisode, eh ben, ça sera l'année prochaine sur les ondes de Radio Galère.